Chers auditeurs, M. l'abbé Diarassari était une belle figure de prêtre basque dont la riche personnalité avait une influence certaine sur le clergé au plan religieux. Il avait publié en basque plusieurs ouvrages de piété, dont un mois de Mali très apprécié et un remarquable résumé de la doctrine chrétienne qui est le meilleur catéchisme basque de tous les temps. C'est l'abbé Lafitte qui le dit. Par ailleurs, il prenait hardiment et ardemment parti dans les luttes politico-religieuses de son époque pour la défense de l'Église. Aux élections législatives de 1893, il se présenta dans la deuxième circonscription de Bayonne contre le candidat républicain, M. Ariague Morochko, un industriel d'Asparin qui n'avait rien d'un pourfendeur de la religion. Monseigneur Diarassari avait le soutien de son évêque, mais celui-ci n'avait pas voulu bénir son entreprise parce que son programme n'allait pas assez loin dans le sens de l'enseignement de Léon XIII. Sans doute la politique de ralliement et les positions notoires de l'évêque avaient-elles quelque peu émoussé l'ardeur anti-républicaine de beaucoup de catholiques. Monseigneur Diarassari fut battu, et la même mésaventure advint à Mauléon à M. Louis Echeverry, à qui l'on préféra M. Berdoli, un ardent républicain, moralement peu recommandable, disait-on. Monseigneur Diarassari mourut en avril 1902 des suites de blessures occasionnées par un banal accident de voiture au moment où il sortait du presbytère de Saint-Jean-Pied-de-Port pour se rendre à la gare. Il y eut encore quelques incidents dus à ses luttes pour la défense de la religion et de l'Église. Monseigneur Geoffrey dut intervenir à l'occasion d'une prédication de carême à la cathédrale en raison des propos du prédicateur qu'il trouvait outranciers. Le curé de la cathédrale, M. Labour, était un partisan déterminé de Monseigneur Diarassari. Peu à peu, cependant, les passions s'apaisèrent et Mgr Geoffrey sut reconquérir le cœur de ses prêtres par sa bonté et son souci de les comprendre et d'être proche d'eux. On disait que Mgr Diarassari recevait souvent la visite de son évêque. Le sens ecclésial des prêtres fit le reste. Nous avons dit le rôle de M. l'abbé Arbelbide, missionnaire d'Asparin, dans l'achat du domaine de Belloc et la fondation du couvent des Bénédictins. Mais lui-même ne voulut pas entrer dans la nouvelle congrégation. Redoutait-il de renoncer à sa volonté propre en se livrant par le vœu d'obéissance, comme le suggère Mgr Mathieu, ancien évêque de Dax? Peut-être estimait-il que, dans le contexte difficile que connaissait l'Église, il pouvait être plus utile en prenant lui-même des initiatives? L'abbé Arbelbide était un prêtre qui ne manquait pas d'idées généreuses ni de moyens matériels pour les réaliser, et il semble bien que depuis longtemps, il projetait de faire des missionnaires d'Asparin une congrégation religieuse. Dès 1880, il faisait l'acquisition du domaine d'Agueria à Mauléon, qu'il confia, après quelques tâtonnements, aux frères des écoles chrétiennes. Non loin de là, fut également achetée la maison Montplaisir. Il prit langue avec les sœurs de Saint-Joseph de Bordeaux, malgré les réticences de l'évêque, pour fonder à Cibourg un établissement qui, dans sa pensée, allait être une maison de retraite pour prêtres âgés ou infirmes. La politique de laïcisation de l'école avait amené le curé de Saint-Jean-Pied-de-Port, l'abbé Belsagui, a formé le projet d'une école chrétienne dans la paroisse, malgré l'opposition d'une partie de la population. Il s'adressa aux supérieurs des missionnaires. L'abbé Arbelbide vit dans ce projet la possibilité de réaliser à Saint-Jean ce qui se faisait déjà à Asparin, une école primaire avec à côté un collège. Après diverses tractations, l'abbé Arbelbide obtint le concours des frères de Ploermel pour prendre soin de l'école primaire. Les missionnaires d'Asparin devaient se charger de la direction du collège. L'abbé Arbelbide était poursuivi par l'idée que les missionnaires d'Asparin n'étaient pas fidèles à la volonté de leur fondateur. Ils ne faisaient plus de vœux et les statues de Monseigneur d'Astros étaient pratiquement abandonnées, sinon oubliées. Il alerta Monseigneur Ducellier en 1886 et quand Monseigneur Fleuriotto lui succéda, M. l'abbé Arbelbide pensa que le moment était venu d'agir. Le nouvel évêque rétablit les vœux et la constitution primitive. Les élections qui suivirent mirent l'abbé Arbelbide à la tête de la congrégation. Le rôle des missionnaires demeurait le même, assurer la prédication au Pays basque et poursuivre l'évangélisation des Basques émigrés en Amérique. Monseigneur Fleuriotto avait beaucoup insisté sur ce dernier point. Juridiquement érigée en institut de droit diocésain, la congrégation devait organiser l'arrivée de nouvelles recrues et leur formation. Le collège de Montléon fut choisi pour y loger le petit séminaire et le noviciat. La formation des grands séminaristes se ferait à Asparin. En 1897, les missionnaires présentaient 7 candidats à l'ordination sacerdotale et une quarantaine de sujets étaient en formation. Le père Arbelbide, suivant en cela la pensée de Monseigneur Fleuriotto, forma le dessein d'aller en Argentine voir les choses de plus près. Son départ eut lieu de Bordeaux en janvier 1897. À son retour, le père Arbelbide trouva à Bordeaux une lettre du père Ossiniri d'Asparin qui lui demandait de rentrer immédiatement, car Mgr Geoffrey avait retardé l'ordination des 7 futurs prêtres de la congrégation. Ayant senti le vent tourner et ayant constaté que la congrégation de Asparin n'avait plus les faveurs épiscopales, il pensa habile de s'adresser plus haut. En réalité, il faisait preuve d'un manque surprenant de psychologie et d'une ignorance encore plus étonnante du droit de l'Église et des habitudes des instances romaines. Il alla donc à Rome demander l'exemption pour sa congrégation, c'est-à-dire la possibilité d'échapper à l'autorité diocésaine et de dépendre directement du Saint-Siège. Or, dans le cas d'une congrégation de droit diocésain, Rome n'agit jamais en dehors de l'initiative de l'évêque, ou du moins sans son aval. Aussi, ce fut la déception quand un décret de la Sacrée Congrégation des évêques du 5 février 1898 débouta le père Arbelbide de ses prétentions. Monseigneur Geoffrey le démit de ses fonctions de supérieur, nomma à sa place le père Eguiagaray, prononça la dissolution de la congrégation et lança même, semble-t-il, l'interdit contre la maison des missionnaires. Dans l'homélie qu'il prononça aux obsèques du père Thomas du Pérou, l'abbé d'Oklahoma décédé à Belloc, il fit allusion à ces faits. Aux entreprises trop personnelles de M. Arbelbide, Mgr Geoffrey opposa la conduite des fondateurs de Belloc qui s'agenouillaient devant leur évêque et devant M. Deyarabide, leur supérieur, pour obtenir la permission d'entreprendre leur œuvre. Le 18 janvier 1898, quelques semaines avant la décision romaine, dans son mandement de carême consacré aux évêques et aux saints du diocèse, Mgr Geoffrey évoquait l'œuvre de son prédécesseur, Mgr d'Astros. « Avant de quitter Bayonne, écrivait-il, il fonda la maison des prêtres auxiliaires de Asparin. Il la fonda maison diocésaine, et elle n'a point perdu ce caractère qui est exclusivement le sien. » S'il avait longtemps soutenu et encouragé l'action du père Arbelbide, il changea d'attitude et réagit vivement quand il réalisa que que leurs perspectives divergeaient. Monseigneur Geoffrey voulait garder à la congrégation sa vocation diocésaine. Le père Arbelbide voyait plus large. Nous verrons la prochaine fois l'œuvre proprement pastorale de Monseigneur Geoffrey.